Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Je suis face à Laetitia Comollet-Tirmand. Vous avez la chance d'être bibliothécaire dans une des plus belles bibliothèques de France.
Oui.
La bibliothèque Mazarine.
Tout à fait.
Qui date du XVIIe siècle et qui possède une quantité phénoménale de livres, dont celui qui sera le sujet de notre conversation aujourd'hui. Écrit entre 1636 et 1641 par une jeune femme, Marie Crous, et pour les femmes, puisque sa dédicace est magnifique. Aux filles, mes compagnes. Alors j'aimerais bien que vous me décriviez tout d'abord ce bel objet livre que j'ai le privilège d'avoir dans mes mains. Ensuite, nous parlerons un peu de son autrice. Et enfin, nous évoquerons le contenu de ce livre, bien sûr.
En réalité, il y a deux ouvrages qui sont reliés ensemble. Un abrégé de recherche de Marie Crous et un avis de Marie Crous aux filles exerçant l'arithmétique. Donc les deux ouvrages sont reliés dans un même volume. On est sur un format in octavo qui correspond aujourd'hui à un format de poche avec une reliure en parchemin. C'est une reliure assez classique de l'époque de Mazarin, donc c'est des reliures assez résistantes et à bas coût.
Donc c'est pas un livre de luxe ?
Non, c'est pas un livre de luxe puisque Gabriel Naudet, qui était le bibliothécaire de Mazarin, préférait investir plutôt dans une diversité de livres avec des reliures plutôt simples, plutôt que dans des reliures d'apparat qui sont plus coûteuses.
On n'a aucune idée de savoir si c'était un best-seller ou si ça se vendait à peu près partout dans Paris, ou on ne sait rien.
C'est difficile à dire, mais ce qu'on sait, c'est que c'est le seul exemplaire qu'on connaît encore aujourd'hui.
Alors vous venez de me dire à l'instant que l'autrice de ce livre donne son âge dans le livre et elle avait 20 ans.
Oui.
Ou peut-être même avant, puisqu'il y a deux livres et elle avait 20 ans pour le deuxième livre.
Ce
qui laisse entendre qu'elle avait peut-être 16 ans. Ou...
Quand elle a commencé, en effet.
Donc c'est très, très émouvant. Qu'est-ce que vous savez sur cette femme et sur son histoire ?
Alors, pas grand-chose, puisqu'il y a peu d'informations, finalement, qui nous sont parvenues, si ce n'est celles qu'on trouve présentes dans les préfaces des ouvrages, dans lesquelles on apprend un petit peu de son passé et de ses origines modestes.
Elle raconte beaucoup de choses sur elle dans les préfaces.
Oui.
Elle a une modestie qui est peut-être un peu exagérée, peut-être pour l'époque, je ne sais pas.
Elle se met dans une posture très humble.
Oui, mais pas toujours. Par exemple, elle est humble, mais pour ce qui est des découvertes qui sont contenues dans ce livre, et dont on parlera tout à l'heure, elle revendique que c'est elle qui les a faites.
Hein. Oui, c'est vrai.
Avec beaucoup de force, hein, en disant « c'est moi qui ai découvert ça ». Elle le dit clairement. C'est donc un livre écrit par une femme, et surtout pour les femmes. Ça, c'est quand même unique, non ?
C'est assez particulier, et elle le revendique vraiment à la fois dans les titres et dans les préfaces. Elle s'adresse aux femmes, elle écrit pour les femmes, pour leur utilité, comme elle dit.
J'ai vu que les historiens qui ont analysé ces choses avec soin ont trouvé qu'il y avait, dans tout le XVIIe siècle, 50 livres d'arithmétique, dont deux seulement sont écrits par des femmes, et... par des jeunes femmes, donc c'est très intéressant. Hein. On apprend des choses dans les préfaces qui sont dédiées aux femmes. On avait pensé que vous pourriez en lire quelques petits morceaux.
Alors, on a déjà deux épîtres dédicatoires, donc où elle adresse son livre à des femmes. Le premier, il s'adresse à Madame de Combalet, qui est une duchesse, la duchesse d'Aiguillon, et elle s'adresse à elle ainsi. Le respect que votre grandeur et vos éminentes vertus vous ont méritoirement acquis partout, ne me permet-toi de douter à qui je devais offrir ce tableau de fleurs au petit point, ce livre d'écriture et particulièrement cet abrégé d'arithmétique, puisque je l'ai fait pour l'utilité de celle de mon sexe.
C'est quoi le petit point, vous avez compris ?
Oui, alors je me suis renseignée. Donc le petit point, en fait, c'est un point de broderie. Donc, a priori, et elle en donne plus d'informations dans la suite de ce texte, en même temps qu'elle lui a dédié cet abrégé d'arithmétique, elle lui a aussi offert un tableau brodé.
Ah, donc on peut penser qu'elle était un peu préceptrice et qu'elle enseignait à la fois les maths et la broderie.
Et bien, en tout cas, elle avait l'air d'être douée dans ce domaine également.
Donc ça, c'est la première préface.
Pour la deuxième préface, elle s'adresse à mademoiselle Charlotte de Caumont, demoiselle de la Force, qui était son élève. Et elle s'adresse à elle ainsi. « Mademoiselle, si quelque chose me pouvait rendre glorieuse, c'est l'honneur que j'ai eu d'avoir mis seule la plume à la main de vos tendres années et d'avoir été jugée digne de cet emploi par deux si vertueuses dames que feu madame la maréchale, votre grand-mère, et madame la marquise, votre mère. » Elle rend hommage à
sa patronne.
Oui, et elle insiste aussi sur la protection que lui apportent ces femmes à qui elle dédie l'ouvrage, donc, puisque par la suite de ce texte, Elle explique « Ce qui me fait à bon droit soupirer après le bonheur de votre protection, m'y promettant une pleine exemption de calomnie, un asile contre l'ennui, un arrêt formel contre les aristarques de ce temps, et me donnera la hardiesse de présenter aux filles, espérant qu'elles y trouveront la vérité d'une invention très utile. » Donc les aristarques, ce sont des critiques. Donc un arrêt contre les critiques de ce temps, voilà ce qui lui permet de donner une sorte de caution à son texte, une protection en citant ces femmes de haut rang.
Est-ce qu'elle fait allusion à ces femmes de la haute société qui étaient organisées des salons à l'époque, qu'on appelle parfois des salonnières, sauf erreur?
Oui, oui, oui.
Alors pas directement, mais elle cite en effet dans son avis, donc là c'est plutôt dans l'avis aux filles mes compagnes, elle rend hommage aux femmes savantes de son temps, donc elle s'adresse à
elle.
Donc
elle n'est pas
dont elle ne se considère pas faire partie.
D'accord.
Avis aux filles, mes compagnes. Mesdames, je penserais grandement faillir contre la bonté que Dieu a gratuitement exercée en mon endroit si je n'essayais d'en apporter quelque utilité à celle de ma condition. Encore plus, y ayant en ce siècle tant d'exemples de savants et sages esprits de mon sexe qui, par leur labeur, triomphent en vue et au gré de tous les hommes doctes. Donc, elle fait ici référence à des femmes savantes dont elle ne cite pas les noms ni les exploits.
Mais elle n'en est pas.
Mais elle ne se considère pas en être, ou en tout cas ce n'est pas ce qu'elle veut laisser paraître dans ce texte.
J'avais vu aussi à un moment qu'elle fait allusion à son papa.
Oui, tout à fait.
L'autre jeune femme qui a écrit un livre d'arithmétique, Marguerite, hein, dont j'ai parlé récemment, dans une autre... épisode de ce podcast, c'est un peu la même chose. Elle remercie son papa, il y a son frère dans l'histoire.
Oui, donc c'est quand elle justifie d'avoir fait lire son ouvrage à Madame de Combalet, elle écrit « Ce nonobstant, je n'aurais pris la hardiesse de supplier très humblement votre grandeur, Madame, de vouloir abaisser son œil favorable sur ce mien labeur, si mon père, me donnant la main, ne m'eût fait connaître combien vous savez, à l'imitation de ce grand Dieu, relever les simples et bas, de quoi je suis du nombre, je le confesse. » Donc à la fois, en effet, elle fait référence à son père et aussi à ses origines modestes et de nouveau à la figure de Dieu également dans ce passage.
Elle remercie son papa.
Oui.
C'est mignon. Voilà. Vous expliquer un peu le contenu mathématique qui est pas du tout négligeable dans ce livre, c'est pour simplifier l'invention de la virgule. Alors il faut dire que la manière d'exprimer les nombres, aussi bien en français que dans d'autres langues, numération décimale, c'est très ancien, mais on considérait toujours des nombres entiers. 12, 14, 127, 814... Mais après, ce qu'on appelle aujourd'hui, nous, après la virgule, il n'y avait pas de virgule, il y avait des fractions. Donc il disait, on va dire, voilà, j'ai mesuré telle longueur, c'est 4 lieues et 7 huitièmes de pied. Et c'était toujours présenté comme un nombre, comme on ferait aujourd'hui, et puis après, il y avait une fraction. Alors cette écriture a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient principal, c'est qu'après, quand on doit faire des additions, il faut qu'on ajoute les fractions en question, et tout le monde sait qu'ajouter des fractions, c'est parfois un peu casse-tête, un peu compliqué.
On t'en prend difficile, voyons. Tiens, regarde. Tu mets un tiers de curaçao. Fais attention, hein. Un tout petit tiers. Un tiers de citron. Tu vois ? Un bon tiers de piquant. Tu vois ? Et alors, un grand tiers d'eau. Voilà.
Et ça fait quatre tiers, hein ?
Et alors ?
Eh bien, dans un verre, il n'y a que trois tiers.
Mais imbécile, ça dépend de la grosseur des tiers.
Eh non, ça dépend pas.
Pourquoi ça dépend pas ?
Eh bien, c'est de l'arithmétique, ça.
Mais l'avantage, c'est qu'il faut bien voir qu'on est à une époque où il n'y a pas le système métrique encore. Donc les prix, les volumes, les poids, tout ça s'était exprimé dans des unités qu'on a pour l'essentiel oubliées aujourd'hui. Il y a eu des deniers, des sols, des louis, etc. Pour les prix. Et puis pour les volumes, c'est encore pire. Et puis ça dépendait des lieux. Ce n'était pas les mêmes unités à Marseille, à Paris, etc. Ce qui fait que on avait toujours tendance à calculer les prix, par exemple, en douzième, parce que c'était un douzième de, je dis pas de bêtises, un douzième de louis, c'était un sol. Si je dis pas de bêtises, c'est probable que je dis une bêtise, c'est pas grave. Et donc il y avait ce côté fraction qui faisait partie du quotidien. Et puis un mathématicien qui est antérieur à Marie Crouse, qui s'appelait Simon Stevin, a inventé un système décimal après l'unité, hein, en dixième, centième, millième. Ce livre qu'il a écrit s'appelait les dîmes. Très beau livre, sauf que quand on regarde un peu ce livre de M. Stevin, qui était très novateur, mais au niveau de l'écriture des nombres, c'était abominable. Hein. Donc il écrivait, il mettait un entier, puis après il mettait pas de virgule, et puis il mettait un petit 0, un petit 1, un petit 2, entouré dans un cercle. On n'arrivait pas à lire. Et donc, j'en reviens maintenant à la contribution de Marie Crouse, c'est qu'elle a eu, on dit de la virgule, c'est pas vraiment une virgule, parce qu'elle met pas des virgules, mais elle met un point un peu comme les Américains aujourd'hui, et mais elle le met pas en bas, elle le met en haut, mais peu importe. Et donc, c'est elle qui a l'idée, on va le dire comme ça, d'inventer les nombres décimaux qu'on apprend aujourd'hui, en principe, à l'école primaire. Et moi, je trouve que c'est assez mignon, je suis pas persuadé que les enfants qui apprennent les nombres décimaux à l'école primaire et conscience qu'un jour il a fallu l'inventer. Et maintenant qu'on sait que c'est même inventé par une jeune fille, je trouve que c'est encore plus intéressant. On a du mal à comprendre que tout ça a une histoire, tout ça se développe progressivement et que ça a duré encore assez longtemps, puisque pendant très longtemps on a encore continué à utiliser des nombres avec des fractions. C'est une histoire compliquée et un peu longue. Donc voilà la contribution de Marie Crouse dans ce livre. Il y a des tables, on appelle ça des tables.
Oui, c'est sur des feuillets dépliants et qui font des conversions. Donc par exemple, la table pour la livre tournoi.
Dans ce genre de table, on trouve que, je sais pas moi, un huitième égale 0,125. De façon à passer de la fraction vers le nombre exprimé en décimal. Et elle le fait pour des unités de volume, de temps, d'argent. Il faut se rendre compte que ça devait être très compliqué à l'époque de faire des calculs. Heureusement, aujourd'hui, on a des calculettes.
D'ailleurs, elle, dans une de ses préfaces, elle soumet aussi l'idée, donc elle est un peu novatrice, elle soumet l'idée que ce serait aux souverains de modifier leur système de monnaie, de poids et mesure, en fait, puisqu'ils ne sont pas compatibles actuellement avec le système décimal. Donc c'est intéressant qu'elle émette aussi son opinion là-dessus.
Donc elle a l'idée du système métrique.
Oui, voilà.
Qui sera l'œuvre de la Révolution française. Et qui se passera ici dans cette maison, hein, puisque c'est l'Académie des sciences qui s'est occupée de, pendant très longtemps, c'était un travail gigantesque, hein, de transformer les unités de longueur, de temps, de volume, de tout ça, hein, de manière universelle, pas seulement française d'ailleurs, universelle, avec les Anglais qui n'ont pas suivi. Mais... Ouais.
on s'est rappelé qu'on était les seuls à la bibliothèque Mazarine à conserver cet exemplaire. Donc il a été décidé de numériser les deux ouvrages qui sont donc désormais disponibles sur la bibliothèque numérique des bibliothèques Mazarine et de l'Institut de France.
On a la preuve que ce livre est à la bibliothèque Mazarine depuis toujours.
Oui, alors déjà, donc on a l'estampille, donc le tampon de la bibliothèque Mazarine dans l'ouvrage, mais on a aussi la mention de cet ouvrage sur l'inventaire après décès du cardinal Mazarin. Donc cet inventaire qui date de 1661 à la mort du cardinal et dans lequel figure en effet l'ouvrage de Marie Crouse. Donc il faisait partie des collections originelles de la bibliothèque.
C'était pas une bibliothèque publique à l'époque?
Alors si, ça commençait à être une bibliothèque publique. À l'origine c'était sa bibliothèque personnelle qu'il a transformée en bibliothèque publique sur les conseils de son bibliothécaire Gabriel Naudet. Donc pour Gabriel Naudet, une bibliothèque elle avait pas vocation à être uniquement celle d'une personne mais à instruire plus de monde, donc il avait convaincu le cardinal Mazarin d'ouvrir sa bibliothèque à tout le monde au moins une fois, une journée par semaine. Donc un jour par semaine, la bibliothèque était ouverte à tous et c'est pour ça qu'on considère que c'est la plus ancienne bibliothèque publique de France. Et ça a continué à être le cas quand la bibliothèque Mazarine est devenue celle du Collège des Quatre Nations, fondée sur vœu de Mazarin après sa mort. Et sa bibliothèque a été transférée dans les locaux du Collège des Quatre Nations, qui est actuellement l'Institut de France, et a continué à être ouverte un jour par semaine.
Et peut-être tous les jours de la semaine pour les élèves.
Et tous les jours de la semaine pour les élèves, tout à
d'accord.
fait.
D'accord. Oui, oui, est-ce oui. qu'on n'a aucun moyen de savoir qui consulter ou... On n'a pas de traces d'emprunt ou
non.
On n'a pas des, comme on appelle ça dans les bibliothèques, des fantômes.
Des registres ou des... Non, on n'a pas d'indices qui nous permettent de savoir quels ouvrages ont été consultés à cette époque, à l'époque du collège ou même après. Donc on ne peut pas vraiment savoir quelle diffusion ont
donc
eu ces différents ouvrages.
Donc on ne sait pas si D'Alembert ou Varignon l'ont lu.
Non, on ne peut pas dire. On peut
mais
le supposer.
Par ailleurs, le collège en question était un collège de garçons.
Oui.
Et ils auraient eu probablement quelques réticences à lire un livre qui s'appelle « Aux filles, mes compagnes ». Un grand merci Laetitia pour ce coup de projecteur sur une femme d'un passé très lointain qui écrivait de la science pour les femmes. Merci beaucoup. Pour illustrer les livres de Marie Crouse, il fallait absolument une musique composée par une femme et chantée par des femmes. Francesca Caccini est contemporaine de Marie. Née en 1597 et morte vers 1645. Elle a probablement été la première compositrice à publier un opéra. Henri IV dira d'elle qu'elle est la meilleure chanteuse jamais entendue en France. Vous avez entendu quelques-unes de ses compositions, chantées par Elena Cecchi Fedi, Maria Cristina Kier, Juliette Rosette et Angela Hicks.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences. Canal Académie.